J'ai donc le privilège d'inaugurer ce cycle du Cinéclub. Pour ceux qui découvrent, pour ceux qui sont en première année, le thème annuel du Cinéclub s'organise autour du thème de Culture G des EC2. Donc vous allez avoir toute une série de films sur l'animalité. Les EC2 ont tout intérêt à venir l'écouter pour réutiliser des exemples peut-être originaux, peut-être qui les distinguent dans leur copie, et pour tous les autres, c'est un prétexte pour découvrir des réalisateurs, des films, des courants, des époques du cinéma que vous ne connaîtriez pas, sachant que les professeurs choisissent des films qui sont des films de cinémathèque, des films qui sont reconnus pour leur qualité, même si de prime abord, ils peuvent vous paraître un peu loin, un peu noir et blanc, un peu poussiéreux, bref, pas forcément immédiatement séduisant. Alors j'ai choisi pour commencer ce soir, l'affichage était assez minimaliste dans les couloirs, puisqu'il n'y avait même pas le titre, je ne sais pas, d'habitude c'est un peu plus fleuri, mais tant pis. J'ai choisi un film qui s'intitule « Au hasard Balthazar » de Robert Bresson, qui a pour thématique l'histoire d'un âne. Voilà, je ne pouvais pas faire plus proche du thème de l'animalité. Alors dit comme ça, ça paraît très naïf, l'histoire d'un âne, ça pourrait être un conte pour enfants. En vérité, vous allez voir que c'est un film qui se veut très profond, par un réalisateur qui la plupart du temps travaille sur des thématiques religieuses, celles de la transcendance, celles de l'élévation de l'âme. Robert Bresson, qu'on a qualifié de janséniste du cinéma, donc peut-il bien parti faire un film sur l'histoire d'un âne? Et bien vous allez voir que cet âne, et tout sauf naïf. Le but de ce film, et surtout la raison pour laquelle je l'ai choisi ce soir, c'est que vous allez voir que dans ce film, l'animalité en fait fonctionne comme un révélateur de l'âme humaine, et plus particulièrement un révélateur des vices et des vertus humaines. Ce qui apparemment n'est pas gagné, puisqu'il s'agit d'un âne, donc animal qui n'est pas considéré parmi les plus intelligents, et puisque de toute façon, l'animalité est souvent présentée comme étant amorale. Donc qu'est-ce qu'un âne viendrait nous apprendre au sujet de la moralité humaine? Et bien justement, et c'est comme ça que je voudrais que vous voyez le film ce soir, l'histoire de cet âne, c'est l'histoire d'un regard que le réalisateur, entrez ou sortez, mais... Allez, on y va, ça a déjà commencé. Merci. L'histoire de cet âne, c'est d'abord l'histoire d'un regard porté sur l'humanité. Autrement dit, le réalisateur va tout faire pour que vous entriez dans le regard de l'âne, ce qui peut paraître un peu curieux, puisque c'est souvent synonyme de bêtise. Mais l'animalité, ici, est l'occasion d'un changement de regard. Et en l'occurrence, il va plutôt être assez pessimiste sur l'humanité, même s'il n'est pas totalement noir. Alors, cet âne s'appelle d'un drôle de nom de Balthazar. En général, ce prénom, on ne le connaît que par le récit biblique, et c'est tout à fait volontaire chez Bresson. Parce que, justement, Bresson voulait déjà donner une dimension spirituelle à son âne. Donc, il l'a appelé de ce nom assez exotique, et il assume tout à fait cette parenté biblique. Cet âne a été accueilli pendant ses jeunes années par Marie, on est en plein Pays Basque, et par Jacques, son compagnon. Au début, tout se passe bien, et puis, dans cette petite famille, très vite, il y a des conflits, de sorte que Marie, qui était pourtant proche de cet âne, eh bien, va le délaisser. Et l'on va assister au fur et à mesure aux allers-retours de cet âne d'un foyer, ou plutôt d'une étable à l'autre. Et il va être ballotté. D'abord, il va être acheté par un boulanger dont le seul objectif sera... balai incessant, merci. Dont le seul objectif sera de l'utiliser. Hein. Ce sera un âne de travail, donc pour l'aider à porter son pain et sa farine. Puis, il va de nouveau être échangé, acheté. Et là, il va tomber dans une famille où on va... le maltraiter, donc on va assister à toute la méchanceté humaine envers les animaux. notamment par un propriétaire qui est soupçonné d'assassinat, donc ça en dit long sur l'ambiance qui va être la sienne, à tel point que l'âne va s'enfuir, donc réflexe de survie, et va se retrouver à travailler dans un cirque où on va le dresser. Nouvelle histoire, la quatrième pour cet âne. Et puis, après être encore passé par un nouveau propriétaire, eh bien, cet âne va finalement fuir de nouveau et arriver à retrouver le chemin de son premier foyer, le seul où finalement il avait été heureux. Sauf que là encore, le sort va le rattraper, puisque le personnage de Gérard, vous allez le découvrir au fur et à mesure, va voler cet âne pour finalement en faire un outil pour sa contrebande à travers les montagnes. Donc l'histoire, vous l'aurez compris, même si le détail pour l'instant vous échappe et c'est normal, l'histoire de cet âne, c'est l'histoire d'un âne qui subit le destin. Voilà. Apparemment, cet âne ne fait quasiment aucun choix, à part celui, à un moment, d'essayer de retrouver la maison où il était un peu calme. Et donc on pourrait dire, mais quel rapport avec l'humanité, puisque si c'est censé être révélateur, cet âne ne fait que subir, ne prend pas d'initiative, n'a pas d'intelligence. Eh bien, en réalité, c'est justement cette innocence que Robert Bresson veut mettre en lumière, et c'est cette innocence qui va permettre, par contraste, par comparaison, de dire si les hommes sont bons, si les hommes sont mauvais, si les hommes peuvent s'élever à quelque chose de supérieur, ou si au contraire, ils restent terre à terre. Je voudrais vous livrer le commentaire que Jean-Luc Godard a pu faire de ce film. Il dit « Ce film, c'est le monde. En 1h30, on voit le monde depuis l'enfance jusqu'à la mort. Avec tout. Je trouve ça absolument merveilleux. Bresson est le grand inquisiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, quel que soit le risque ou la violence des choses, va jusqu'au fond des choses. Le cinéma qui filme les hommes est humaniste par excellence. Donc Bresson est à la fois inquisiteur et humaniste. » Alors voilà un vocabulaire et religieux et relatif à la moralité. Ce qui est intéressant, c'est que Godard, Bresson faisait partie de ces auteurs encensés par la Nouvelle Vague. Hein. Alors, la Nouvelle Vague n'était pas tellement dans la juste mesure, soit ils détestaient absolument, soit ils adoraient. Voilà. Et heureusement pour lui, Bresson faisait partie de ceux d'une école déjà ancienne, puisqu'il tourne dès les années 30, mais qui avait une patte d'auteur qui plaisait aux jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague. Et vous voyez qu'on peut qualifier un auteur de religieux et d'humaniste, alors que dans ce film, il s'agit de l'histoire d'un âne. Alors pourquoi un âne? Eh bien, c'est ce que j'aimerais que vous suiviez bien au fur et à mesure de ce film. C'est avant tout parce que c'est un regard d'un certain point de vue naïf, puisqu'il n'est pas là pour juger, mais d'un regard qui devient particulièrement objectif, parce que justement, il regarde les hommes autrement que ne le feraient les hommes eux-mêmes. Autrement dit, cet âne va à la fois être l'objet des désirs, des convoitises, des colères, des haines ou des amitiés des hommes, et en cela, il va révéler ce qu'ils sont, ou bien, et ce sera tout le tour de force de ce film, le réalisateur va peu à peu vous faire entrer en empathie avec cet âne et vous faire regarder le monde humain à partir de sa position à lui. Lui qui n'a rien demandé, lui qui apparemment est l'innocence pure puisqu'il n'a pas d'initiative, va fonctionner comme une révélation. Alors, ceci est l'occasion pour moi, après cette courte introduction, de vous présenter un petit peu Robert Bresson lui-même. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu de film de Robert Bresson, et bien ce sera une bonne façon de commencer. Donc réalisateur né en 1901, qui commence par la peinture, voilà, il a le temps de se chercher, et qui passe au cinéma avec son premier film en 1934, qui s'appelle Public d'affaires, film encore un peu jeune. Son véritable premier film date de 1943, donc en pleine guerre mondiale, où il tourne Les Anges du péché, film que vous pouvez trouver, enfin c'était le cas en tout cas il y a peu de temps, sur internet. J'étais tombé sur la filmographie entière, gratuite et en libre accès de Robert Bresson, donc si ce soir vous étiez conquis, sachez qu'il ne vous en coûtera rien de voir l'ensemble de sa filmographie. En tout cas, en 1943, ces thématiques commencent à s'affirmer puisque il s'agit en fait d'un film sur une communauté de religieuses. Alors pas du tout de façon cuculapraline ou naïve ou quoi que ce soit. C'est à chaque fois une vision extrêmement exigeante de l'humanité et en l'occurrence de l'humanité en tant qu'elle cherche à se rapprocher de Dieu. Et il enchaîne sur Les Dames du Bois de Boulogne en 1945, qui contrairement à ce que laisse penser le titre, n'a absolument rien ni d'érotique ni de pornographique. Je me rappelle d'un ciné-club à la rue d'Ulm, du temps où on passait des films en pellicule. On a eu du mal à trouver la pellicule des Dames du Bois de Boulogne, et finalement il avait fallu qu'on la trouve dans un lieu obscur, d'un cinéma obscur pornographique, qui avait gardé ça pendant des années parce que c'était une erreur de commande. Il pensait que c'était un film très cochon, alors que pas du tout, c'est tout en noir et blanc et on ne voit rien. Voilà. Mais donc, c'est pas du tout un film de ce type-là, et de plus, ça a été, lors de sa sortie, un échec commercial. En fait, c'est une adaptation d'un roman de Diderot, vous voyez, donc on est assez loin de ce que le titre pourrait suggérer. Il enchaîne avec son premier grand opus, celui qu'on considère comme le premier grand film de Bresson, Le journal d'un curé de campagne, d'après Bernanos. Et c'est là où il commence à trouver sa patte, qui va lui valoir le drôle de surnom de janséniste du cinéma français. Alors, vous avez entendu parler du jansénisme, ce mouvement apparemment chrétien qui a consacré la sobriété et le sentiment du péché jusqu'à l'extrême, un peu la version extrêmement rude d'un christianisme culpabilisant, donc avec un représentant bien connu qui est Pascal. Eh bien, maintenant, quand on parle de jansénisme, on veut parler d'austérité. Voilà. Et vous allez voir un film qui, ce soir, sans être inintéressant pour vous, j'ose espérer, en tout cas, n'aura pas les séductions immédiates d'un blockbuster. C'est pas le but, ça n'a pas été fait pour, et c'est sans doute pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, pour ceux qui parmi vous ne sont pas très habitués à des films qu'on qualifie de cinémathèques, ça veut dire quoi? C'est des films qui durent, c'est des films qui sont reconnus comme des chefs-d'œuvre, ce sont des films qui n'ont pas forcément eu des succès commerciaux. Bon, pour celui-ci, ça a été globalement le cas lors de sa sortie, mais ce n'est pas une nécessité. Et ce sont des films dont les personnes cultivées pensent, et souvent avec raison, qu'ils apportent quelque chose à l'histoire du cinéma. C'est ça, un film de cinémathèque. Donc, au début, vous avez trouvé ça peut-être étrange, surtout pour ceux qui auraient perdu l'habitude de voir des films en noir et blanc. Comme de plus, c'est l'histoire d'un âne, ça ne va pas toujours être beaucoup dialogué, donc il va falloir vous accrocher à l'image. Et vous allez voir que le son est tout sauf facile. Il y a un peu de musique, mais enfin, le but n'est pas de vous noyer comme on noierait ses frites dans du ketchup, hein. C'est pas du tout ce genre de film. Donc, que ce soit pour vous une occasion, une découverte, et d'un certain type de cinéma, et ce cinéma de Bresson en particulier. Pour les autres films dont vous aurez peut-être entendu parler, Un condamné à mort s'est échappé, pour moi c'est son chef-d'œuvre absolu. Beaucoup plus dur, et là Bresson passe à la couleur, Le diable probablement à ne surtout pas voir dans des moments de désespoir, c'est juste affreux, c'est l'histoire d'un suicide non triste, c'est comme ça que Bresson le présentait. Donc quand vous aurez vu les autres, parce que sinon vous allez trouver ça d'un déprimant absolu. Et enfin, son dernier film, assez difficile mais très intéressant, qui s'intitule L'argent. Alors, ce style, je vous donne quelques clés de lecture pour que le film ne vous paraisse pas trop difficile quand vous allez le découvrir par vous-même. Je voudrais vous introduire au style particulier de Bresson par une séquence qui va durer 3 minutes, où l'on va découvrir Marie et son âne, entre lesquels se noue une complicité qui est un des rares moments un peu heureux pour la vie de l'âne, et qui contraste, vous allez le voir dans cette séquence, avec des malfrats, qui sont des figures totalement antithétiques avec celles de Marie, le but étant justement de mettre en avant des figures morales intéressantes et d'autres qui sont celles du désœuvrement et du vice. Or, rien que dans cette scène, vous allez voir qu'on assiste à une humanisation de l'âne, puisqu'il va se présenter comme l'ami véritable de cette jeune fille, même si son allure, a priori, ne lui donne pas cette humanité, Et surtout en contraste total avec, vous allez le voir, la méchanceté totalement gratuite de ces garnements. Alors. Voilà pour une toute petite séquence dont le but était déjà de ne pas vous dévoiler trop d'éléments pour ne pas déflorer le suspense, mais qui est assez représentatif du film. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sobre. Hein. Vous voyez que les dialogues ne sont pas étouffants. Le son est tout sauf saturé, mais en même temps, ça oblige à tendre l'oreille et à être plus attentif aux détails. Hein. C'est ce que cherche Bresson. Vous allez voir que le travail sur le son est important. Et de façon plus générale, c'est une bonne introduction au style de Bresson. Alors je voudrais le caractériser par six éléments. Je précise que c'est le genre de film extrêmement sérieux et pas inintéressant pour les OC2 hein, qui auraient à travailler sur la dimension morale de l'humanité. Il y a des OC2 ce soir? Ah ben voilà, très bien. Alors, si vous avez comme sujet, je donne des exemples, l'animal est-il moral? Y a-t-il... la personne humaine est-elle un animal? Ce genre de choses où vous serez obligé de passer à un moment ou à un autre par la question de la, à l'apostrophe, de la moralité de l'animal ou au contraire de sa dignité. C'est le genre de film qui peut ou introduire une copie ou servir d'exemple qui vous distinguera, j'en suis sûr. Je ne suis pas certain que la plupart candidats cette année au concours des écoles de commerce, verront forcément ce film-là. Donc, pourquoi pas vous distinguer un petit peu par cela. Alors, le style de Bresson, pour pouvoir en parler justement de façon précise, se caractérise d'abord par une sobriété de l'image, ce qui faisait dire à Bazin, le grand critique des années 40 à 60, qu'il y a une incessante pauvreté de l'image. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie. Ça veut dire justement qu'on n'est pas là pour être surstimulé par des choses qui nous déconcentreraient. Ici, le regard cherche le point principal de l'image. Et de ce point de vue-là, cette pauvreté de l'image va de pair avec une efficacité de sa composition. Pour Bresson, suggérer, c'est non pas désintéresser, mais au contraire, rendre plus actif à la fois le cinéma lui-même, mais surtout le spectateur. Deuxième chose, si l'image est sobre, le son l'est tout autant, non pas là encore pour désintéresser, mais pour une raison un peu différente cette fois, si le film vous intéressait, sachez qu'il y a un opuscule qui est merveilleux de Bresson, que vous trouverez chez Folio, qui s'intitule « Notes sur le cinématographe ». Ce sont des pensées, ça se lit comme ça, comme les pensées de Pascal, sauf que ça ne concerne que le cinéma, pour le coup. Et Bresson, dedans, fait une grande différence entre le son et l'image, même si pour lui, il faut absolument les deux. C'est que on voit une image, on la voit simplement, on entend un son, cela déclenche en nous l'image à laquelle ce son se réfère. Entendez, dit-il dans ses notes, le sifflet d'un train et vous imaginez toute une gare. Voyez l'image d'un train et vous voyez l'image d'un train. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour lui, il y a une dialectique du son et de l'image, au sens où le son va apporter la dose d'imagination personnelle à l'image qui pourrait lui manquer. Et pour cette raison, il ne s'agit pas là non plus de saturer la bande-son avec tout ce qu'on pourrait y mettre, mais au contraire, de choisir très méthodiquement les quelques sons qu'on souhaite pour leur puissance suggestive. Troisième élément, les acteurs. Alors si je vous demandais quel est le nom de cette actrice, vous seriez bien gêné, moi aussi d'ailleurs, parce que les films de Bresson ne comportent que des acteurs amateurs qu'on ne retrouve jamais nulle part ailleurs. Non pas parce que c'est des acteurs qui ont eu tellement peu de succès qu'on ne les a plus jamais employés après, pas du tout, mais parce que Bresson voulait des inconnus pour faire ses films. C'est un anti-star system par excellence. Il y a une raison qui est tout à fait objective, c'est que quel que soit l'acteur d'un film, inévitablement, s'il est connu, vous projetez sur le film les rôles qu'il a eu dans d'autres films, ou en tout cas la réputation qu'il a eu dans ses rôles. Et même les acteurs, professionnellement, en souffrent, parce qu'ils ont été bons dans un rôle de chevalier, ils ne vont plus faire ensuite que des rôles de chevalier jusqu'à leur mort. Une actrice a joué une midinette dans un film romantique, elle ne fera que des comédies romantiques un peu faibles. Et donc, il est très rare, mais c'est le système qui contraint les acteurs comme ça, il est très rare de trouver des acteurs qui sont transversaux et qui peuvent jouer tous les rôles à tel point que vous les redécouvrez sans projection apparente quand vous les voyez à l'écran. Il y en a quelques-uns, je pense que les doigts d'une main ou de deux mains peuvent suffire. Gérard Depardieu, il a à peu près tout fait. Plus ancien, Jean Gabin, mais pour vous, ça commence à être un peu poussiéreux. J'en vois un troisième, Anthony Hopkins. Pareil, il peut vous faire des pervers cannibales ou des professeurs de lettres extrêmement raffinés. Enfin, il est extraordinaire. Et puis, pareil, on en trouvera 3-4 chez les femmes. Mais c'est rarissime. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux acteurs, mais pour Bresson, c'est exactement le contraire de ce qu'il veut. Parce que, voyez l'attitude de cette jeune femme que vous découvrez, Marie. Bon, elle n'est pas hyper expressive, mais parce que c'est ce que voulait justement Bresson. Sauf que le fait que vous la découvriez dans son entière nouveauté, qu'elle ne représente rien pour vous, eh bien, c'est comme si vous arriviez devant ce film avec un regard tout neuf, sans attente particulière, exactement comme le regard de l'âme qui est censé vous aider à mieux comprendre l'humanité. Alors, par exemple, Bresson, au regard de ce que je vous dis sur le son et sur l'acteur, ne comprenait même pas qu'on double les films. Pour lui, mettre la voix d'un acteur sur celle d'un autre acteur, c'est absolument impensable. Alors, non pas parce qu'il était pour l'apprentissage des langues, etc., c'est pas ça. C'est que pour lui, une voix est un rayonnement de l'âme. Et donc, si vous mettez le rayonnement d'une âme sur un autre corps que celui de cette âme, bah, c'est comme si, je ne sais pas, moi, un violon jouait une partition de cornemuse, ça va pas aller. Enfin, voilà, c'est pas fait pour. Il y a peut-être des transpositions parfois qui sont moins inintéressantes que d'autres, mais ça suppose un travail particulier. Donc pour lui, c'est tout à fait ridicule. Et pour la même raison, il leur demande de ne pas avoir trop d'expressivité. Alors si vous connaissez le cinéma de Bergman, c'est un peu la même histoire. Non pas parce qu'il ne veut pas des expressions, ça exprime, hein, on ressent ce qu'elle ressent, cette jeune fille à l'écran. Mais parce que pour lui, l'expressivité des acteurs, du cinéma, a quelque chose de tellement artificiel et de tellement exagéré qu'elle voile ce que, au contraire, l'image, la photographie pourrait révéler. C'est un dualisme dont on n'est jamais sorti au cinéma. Un réalisme qui se veut tellement parfait d'un côté à la Louis-Lumière qu'il rejette tout ce qui serait artificiel, la mise en scène étant déjà presque un tabou, et de l'autre côté, la merveille qu'on assume, et puisque le cinéma est aussi un lieu de la magie, pourquoi s'en priver? Donc on dit souvent que toute l'histoire du cinéma se comprend dans l'opposition des frères Lumière et de Méliès. Méliès pour la fiction et les effets spéciaux de l'époque, 1900-1910, et de l'autre côté, Lumière, les frères Lumière qui filment comme des documentaristes la vie. Et cette dichotomie, en fait, explique pas mal de choses. De façon tout à fait évidente, Bresson fait partie de ceux qui sont attachés à un cinéma ultra réaliste, ultra documentaire, comme si le fait de poser dans les meilleures conditions la caméra face à quelqu'un qui va, par son innocence, par sa naïveté, par son manque d'expérience, se présenter tel qu'il est, allait révéler quelque chose, non seulement de la personne, mais de l'humanité tout entière. Je continue sur cette caractérisation. Vous allez voir que le récit est souvent un peu elliptique. On comprend, hein, c'est pas une histoire si compliquée que ça, mais on n'est pas dans un surdétail qui ferait qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour comprendre. Le but étant justement d'introduire des formes de suggestion, et en l'occurrence, pour la vie de cette âne, de montrer par le récit, qui ne sera pas parfaitement lisse ou linéaire, que la vie humaine, c'est aussi cet inconfort, ces coups du sort, ces choix du destin, et cette fragmentation partielle du récit. Elle va de pair avec, alors ça c'est plus difficile à voir, mais vous allez peut-être y faire attention maintenant que je vous en parle, elle va de pair avec une fragmentation de l'espace et notamment des corps. On a rarement un plan d'ensemble avec des personnages bien distincts, où l'on voit qui fait quoi, à quel endroit, à quel moment, mais on aperçoit plutôt, à l'image de Marie dans l'entrebâillement de la porte, des fragments de visage ou une main qui se glisse sur un banc. Voilà ce que fait Bresson. Si vous avez l'opportunité de voir un condamné à mort s'est échappé, s'il vous plaît, voyez-le, c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous verrez que toute la première séquence, qui dure à peu près 5-6 minutes, où un prisonnier est emmené, c'est pendant la guerre, dans une voiture vers une prison, il tente de s'échapper, toute cette séquence fonctionne par les mains. Autre exemple, un film sur un voleur, apparemment, qu'est-ce que ça, noble, justement, il faut que vous le découvriez. Pickpocket, c'est pas pour rien si le pickpocket travaille avec ses mains, et c'est ce qui intéresse Bresson, filmer les mains. Voilà, Bresson filme des fragments. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, je vous en propose une, mais je n'ai pas le monopole de leur vérité. Je pense que, de la même façon que le récit est fragmenté, les images doivent être fragmentées parce que, quand on fait quelque chose de très lisse, de très linéaire, de très facile, de très confortable, c'est comme si le monde était lui-même très clair. D'ailleurs, on a besoin de ça, hein, par un moment. Si vous êtes très fatigué, ça va venir, rassurez-vous. Si, pas aujourd'hui, un peu de temps. Si vous avez un souci, si vous avez subi une contrariété, vous ne vous précipitez pas vers des œuvres compliquées, qu'elles soient littéraires, scientifiques, artistiques. Vous préférez quelque chose de léger. Et la légèreté, c'est quoi? C'est la facilité. Or, si de temps en temps c'est un besoin qu'on peut avoir, Il se trouve que le monde n'est pas toujours cette légèreté et cette facilité. Et je crois que Bresson, en fait, est un peu l'analogue de Pascal au cinéma. C'est-à-dire que le fragment est une manière de casser cette illusion de la linéarité ou de la facilité ou du caractère lisse de l'existence. Pas forcément comme un projet. Hein. Pascal ne s'est pas dit « le monde est obscur, je vais écrire des fragments ». Il a écrit des fragments au fur et à mesure de ses inspirations. Et on peut retrouver évidemment des thèmes, des cohérences. Donc c'est pas du tout un projet. Mais ce qui est certain, c'est que l'effet qui en résulte, c'est qu'on n'arrive pas à donner un ordre précis à ces fragments. Vous savez qu'on en est à la 5e ou 6e édition des Pensées de Pascal selon des ordres qui se veulent tous plus précis les uns que les autres. Mais en fait, il faut qu'il n'y ait pas d'ordre définitif, parce que ces fragments valent un peu comme des saillies de clarté, si vous voulez. Et si vous commencez à dire « ça va bien de A à Z en passant par tant d'étapes, etc. », c'est comme si la totalité formait une clarté parfaite. Or, Pascal considère que nous sommes marqués, pour lui, par le péché originel, par la finitude humaine, si vous préférez, et que même si nous accédons ici ou là à des vérités, elles seront toujours fragmentaires. Et bien, c'est pareil pour Bresson, du point de vue de l'image, du son, comme de la visibilité des corps et des espaces, la fragmentation est une manière de ne pas tomber dans les illusions de la représentation. Dernier élément, vous l'aurez senti dans cette rapide séquence, eh bien, ce qui trône en matière de vision, de force expressive, bien que sobre, c'est le visage. C'est le propre des très grands auteurs des années 50 à 60. Là aussi, je pense à Bergman. Vous pouvez faire toute une histoire de la filmographie de Bergman à partir du visage, et d'ailleurs, l'un de ses films s'intitule ainsi. Alors, tout ceci ne doit pas nous éloigner de la question centrale de ce film. C'est le troisième moment de cette présentation. Pourquoi un âne ? N'y avait-il pas moyen de passer par des moyens plus explicites ? Eh bien, un âne agit comme révélateur d'abord parce que ce n'est pas n'importe quel âne. Cet âne, il a déjà une forme de spiritualité. Pas dit qu'il était totalement humain, mais il a déjà une forme de spiritualité. Je vous ai expliqué tout à l'heure déjà la raison de son prénom. Mais rien que dans cette scène, même si vous pouvez trouver que cette Marie est extrêmement naïve dans sa façon de faire, il offre à Marie une compagnie qui est pure. Il n'est pas là de façon intéressée, enfin, elle va peut-être le nourrir, mais enfin, ça n'ira pas, ça ne va pas expliquer tout son comportement. Et elle a une façon très fleur bleue apparente de le rendre plus beau, elle le décore de fleurs, mais en même temps, elle l'embrasse. Donc il y a quelque chose dans cette âne qui renvoie au fantasme d'une amitié pure, désintéressée, sans ambiguïté, et que l'âne semble recevoir comme malheureusement il recevra tous les autres signes d'inimitié. Deuxième raison qui fait que cet âne n'est pas n'importe quel âne, en réalité il a la vie d'un homme, si vous suivez bien ce film. Il va connaître les tourments habituels de l'humanité, il va subir toutes les passions que les hommes peuvent subir entre hommes, et rien que dans cette séquence, il a le droit à un bref moment de tendresse, et tout aussitôt, il va subir une vengeance gratuite. J'ai pas pu avoir la fille, donc je vais battre l'âne. Logique. Non, pas logique du tout, logique totalement fausse, des passions, du n'importe quoi, de la colère qui passe sur des objets qui n'ont rien à voir avec cette colère. Et c'est déjà un récit sur des passions fondamentales de la vie humaine. Rien que dans cette séquence de 3 minutes, vous avez la joie, la tendresse, la peur, la brutalité, la colère, et peut-être pour Marie à la fin la lâcheté. Bon, alors elle a peur, donc c'est pas tout à fait comme si elle décidait d'être lâche, mais en 3 minutes on a déjà toute une palette des passions humaines parmi les plus habituelles, sauf que cette âne, sauf quelques cris que vous entendez quand vraiment on lui donne des coups, il est animé, troisième élément qui le distingue, par une sorte de stoïcisme jusqu'au bout des pattes, si je puis dire, des sabots, dans la mesure où, la plupart du temps, il va accepter son destin. Je vous dis, il n'y a qu'un seul moment où il s'enfuit d'un lieu où il est vraiment trop maltraité. On est très loin des ânes à la Walt Disney ou des ânes qui sont là pour nous faire rire, comme c'est souvent le cas des animaux au cinéma. On est face à un âne essentiellement impassible, ce qui a l'avantage d'en faire une figure humble et innocente. Et c'est en cela que les hommes qui lui font du mal ou qui lui font du bien le font de leur propre initiative. Cet âne ne les provoque pas. Cet âne étant impassible, il crée lui-même une sorte d'environnement neutre et confortable en un sens pour les hommes, de sorte que ce qui se révèle, c'est uniquement les passions des hommes et des femmes qui l'entourent. Dernière chose que l'on pourrait peut-être dire, qui sont les personnages qui sont bons ou qui ont une certaine vertu dans ce film? Alors Marie, que vous avez déjà vu, mais ça va dépendre des moments, c'est ambigu en fait. Raison nous fait comprendre que il y a des méchants qui ne sont pas si méchants que cela, et il y a des gentils qui ne sont pas non plus tout blancs. Et finalement, la seule figure d'innocence incontestable du début à la fin, c'est cette âne. Un peu par analogie avec une figure sainte qui aurait l'avantage de révéler ce que les autres, justement, ont de vicieux ou de vertueux, mais en tout cas, comme une figure de comparaison par rapport à cet âne. Alors, je vous ai dit l'essentiel, peut-être une citation de Gilles Deleuze. Vous savez que Gilles Deleuze, le philosophe, a fait beaucoup de choses dans beaucoup de sens, mais notamment il a deux tomes sur le cinéma, l'image-temps et l'image-mouvement. Et il a beaucoup commenté certains auteurs particulièrement puissants. Je parlais de Bergman, il faudrait parler d'Hitchcock, mais aussi en l'occurrence Bresson. Et voilà ce qu'il écrit à propos de ce film dans l'image-mouvement. Ayant l'innocence de celui qui n'est pas en état de choisir, l'âne Balthazar, chez Robert Bresson, ne connaît que l'effet des non-choix ou des choix de l'homme, la phase des événements qui s'accomplit dans les corps et les meurtrit. Voilà. Il ne provoque rien, donc il subit, donc on sait ce qui vient des hommes. Il ne juge pas, donc pour nous, c'est une figure qui va être d'autant plus pratique pour juger des personnages qui l'entourent. En cela, il y a en lui quelque chose d'anachronique, qui peut révéler des contradictions aussi de l'époque, mais aussi surtout une sorte de métaphore du regard cinématographique lui-même. L'âne par lequel vous allez pouvoir juger les personnages qui l'entourent est, selon Bresson, l'image du cinéma lui-même, qui serait idéalement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de cette école de réalistes et de documentaristes, il serait idéalement la caméra qu'aucun affect de la mise en scène ne perturbe, ou qu'aucun artefact d'un star system, d'une mauvaise bande-son, d'une mauvaise image ne viendrait perturber. Vous auriez donc de ce point de vue-là une certaine mise en abîme de cet âne pour le cinéma lui-même. Et le but est tout à fait intéressé. Il s'agit ici d'écrire un film moral à partir de l'animalité. Oui.
Est-ce que vous pouvez juste répéter s'il vous plaît la citation du film?
Oui, bien sûr. Voilà. Ayant l'innocence de celui qui n'est pas en état de choisir, l'âne Balthazar, chez Robert Bresson, ne connaît que l'effet des non-choix ou des choix des hommes, la face des événements qui s'accomplit dans les corps et les meurtrit. Et vous trouverez ça dans l'image mouvement, qui est le deuxième tome des essais sur le cinématographe. J'en ai terminé pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous en prie. Les deux, en fait, ça dépend. Je n'ai pas imaginé tous les sujets possibles sur l'animalité, mais l'âne, dans ce film, il est révélateur du comportement des hommes. Donc en cela, c'est ce que vous dites. Mais en même temps, il est une figure de l'innocence. Donc il est victime. Si vous avez un sujet sur le droit des animaux, bien qu'à l'époque ce ne fût pas une préoccupation des sociétés, c'était il y a déjà plus de 50 ans, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre l'exemple de cette âme. Voilà. La force des grandes œuvres, pas seulement au cinéma, hein, dans tous les domaines, même non artistiques, c'est de pouvoir être lu à partir de différentes époques, à partir de différentes questions. Voilà. Quand une œuvre ne répond qu'à une question à un moment donné, elle finira dans l'oubli, c'est inévitable. Ou alors c'est qu'elle comporte d'autres virtualités qu'on n'a pas vues sur le moment, c'est possible. Mais ce qui dure, c'est ce qui n'a pas été fait pour répondre juste à une mode à un moment donné. Et donc, vous pouvez tout à fait considérer que ce film interroge aussi la possibilité d'une dignité animale. D'autres questions, peut-être ? Voilà, en espérant que vous passerez un bon moment, je vais vous laisser avec le film. L'un d'entre vous voudra bien éteindre les appareils à la fin de la séance, s'il vous plaît. Qui vous voulez ? Mademoiselle en jaune, par exemple, si vous voulez bien, vous appuierez sur 3 boutons, c'est pas compliqué, ça s'éteindra juste après. Et vous laisserez le film dessus, je viendrai le récupérer demain. Je vous laisse donc en compagnie de ce film, des films.